Après des débuts prometteurs, le projet d'Hydro-Québec d'une auto électrique est en crise. Pierre Duchesne, rien ne va plus entre les administrateurs de technologie M4, ça c'est la filiale d'Hydro-Québec qui s'occupe de ce projet, et l'inventeur de la voiture électrique en question, M. Pierre Couture, qui a d'ailleurs donné sa démission cet été. Et ça continue, là, la saga.
Ça brasse encore. Écoutez, article assez critique à l'égard de ce projet de moteur roue. Le titre de l'article, c'était « Hydro-Québec n'a pas encore inventé la roue ». C'était dans la revue Québec Science. On parle d'une histoire de bagnole, enfin. Avant de parler aux journalistes, on va peut-être faire la récapitulation de cette crise.
Oui,
on peut peut-être parler d'une crise, là. Ce qui nous intéresse ici aux Affaires et la vie, c'est est-ce que cette invention est commercialisable? Est-ce qu'on peut aussi en faire la fabrication ici? C'est ce qu'on va essayer de savoir. Alors, pour vous présenter cette récapitulation, débutons avec Pierre Couture, l'inventeur. Il est tenu au silence depuis plusieurs mois. Mais il accordait quand même une entrevue au début de l'année, le 22 janvier dernier, à l'émission Découverte de la télévision de Radio-Canada.
Nous n'envisageons pas construire de voitures hybrides au Québec. Nous envisageons cependant fabriquer les composantes majeures telles que le moteur roue, l'électronique ainsi que la génératrice.
Le 8 août dernier, à l'émission Le Point, Jacques Duval, chroniqueur automobile et ex-employé chez Ford du Canada, répond à Pierre Couture.
Je pense que, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, c'est les ligues majeures, il y a des gros joueurs dans ce domaine-là, et j'ai l'impression qu'ils risquent de se faire mal un petit peu s'ils poursuivent dans cette avenue-là, et que vaudrait mieux peut-être laisser ça justement à ceux qui ont intérêt à faire fonctionner des voitures et qui ont une expertise là-dedans considérable.
Claude Mainville est président du Club Électroauto. C'est un groupe de pression qui favorise l'électrification des transports dans les grandes villes.
Moi, je pense qu'on peut faire appel à la petite industrie québécoise pour développer ces composantes-là. On ne parle pas de chaîne de montage au même ordre qu'un véhicule là, complet. On parle de composantes. Alors ça, on est capable de soutenir ça absolument au niveau de l'industrie québécoise.
Marcel Côté, président de la firme Secor, fut consultant pendant plusieurs années sur le projet de moteur roue d'Hydro-Québec.
Ces projets qui s'avèrent des grandes innovations sont continuellement remis en cause. Et c'est pour ça que ceux qui les amènent jusqu'au bout sont généralement des chercheurs qui ont, si vous me permettez l'expression, des têtes de cochon. Et c'est pour ça que les grandes innovations, que ce soit le transistor, que ce soit, en fait, remontons dans le temps, toutes les grandes innovations sont généralement le fruit de savants, de chercheurs, qui, en plus d'être des bons chercheurs, sont aussi très déterminés et un peu tête de cochon. Et alors, c'est évident que ces gens-là, souvent, n'ont pas des bons rapports avec leurs supérieurs et que leur projet peut être remis en cause.
C'est une sculpture.
C'est une voiture.
Je vois un Picasso.
L'auto électrique n'est pas une innovation en soi. Et l'exposition Beauté mobile du Musée des beaux-arts de Montréal nous l'a pourtant prouvé. Retrouvons-nous sur le plancher de cette exposition passée en compagnie de Claude Mainville.
C'est du charme.
Ici, on est devant la Jamais Contente, qui est la première voiture au monde à avoir franchi le cap des 100 km. Il y a une voiture toute électrique. Pas de fil. Il n'y a pas de fil qui traîne.
100 km, et on parle de quelle année, là?
En 1899. Alors, c'est vraiment un exploit. Et aujourd'hui, on est rendu à la 6e ou 7e génération des véhicules électriques. Il y avait quand même 30 manufacturiers d'automobiles électriques au début du siècle en Amérique du Nord. Alors, c'était une grande entreprise. Et tous les camions, les premiers camions de livraison à Montréal étaient tous électriques. Quand on est passé des chevaux aux camions, on est passé aux camions électriques.
Comme vous pouvez le constater, l'environnement intérieur a très peu changé. On note simplement...
Du Musée des beaux-arts, transportons-nous maintenant à La Rochelle, en France, où Citroën, la compagnie, s'est lancée dans un projet d'auto électrique des plus sérieux.
On arrive d'ailleurs de la France actuellement. On est allé visiter la première chaîne de véhicules électriques au monde chez Peugeot Citroën, Cerisay en France. Alors, ce n'est plus au stade de la table à dessin. Actuellement, on en produit une par jour pour les fins d'expérimentation et pour alimenter les concessionnaires avec un modèle. Mais d'ici 3 mois, on va passer à 20 par jour, après ça à 30, et on prévoit à la fin de l'année à 90 par jour.
Le Québec n'est pas en reste. Le projet de Citroën consiste en une voiture électrique de ville, urbaine donc, pour de courtes distances. La voiture de Pierre Couture de chez Hydro-Québec aurait une autonomie plus grande, puisque hybride. Pour de longues distances, il y aurait un petit moteur à essence qui viendrait prendre la relève. Le 1er décembre 1994, à son tour, Hydro-Québec rend donc public 10 ans de travaux menés dans le secret le plus complet.
Hydro-Québec a finalement dévoilé ce matin sa mystérieuse voiture. Une voiture qui fonctionne entièrement à l'électricité.
Il s'agit d'une automobile actionnée par 4 moteurs, un pour chaque roue. La première voiture devrait être disponible en 1997. Ce véhicule sera d'ailleurs présenté demain, en grande première mondiale, au 12e symposium de l'auto qui se tient en Californie.
Et justement, deux jours plus tard, Germain Harbeck de Technologie M4 accordait une entrevue aux Affaires et la vie depuis la Californie, siège de ce symposium international.
Bien, tous les grands de l'industrie automobile sont présents, là. Et on ne peut pas dire qu'on a encore vraiment eu beaucoup de réactions, mais ça va se faire dans les heures ou dans les jours qui viennent. Pour ceux qui connaissent le domaine ou les spécialistes, je dois dire qu'ils sont présentement sceptiques face aux performances que nous proclamons avoir réalisées avec ce moteur-là.
À partir de résultats mitigés aux États-Unis, tout va débouler très vite. L'administration de M4, qui gère le projet, commence à douter du groupe de traction électrique Couture. Ils espéraient revenir de Californie avec un partenaire industriel et financier. Ils reviennent les mains vides. Le gouvernement du Parti québécois récemment élu va changer les têtes dirigeantes du projet. Jacques Germain devient le directeur au début de 1995. Le courant ne passe pas entre lui, l'administrateur, et Pierre Couture, le chercheur, l'inventeur. Durant l'été, Hydro-Québec annonce qu'elle ne s'en tiendra qu'aux recherches qui portent sur le moteur roue, tout en laissant de côté, pour l'instant toutefois, les composantes. Début août, Couture n'accepte pas cette nouvelle orientation, il démissionne. Le 30 août, Hydro-Québec tente de rassurer la population québécoise qui s'est pris à rêver d'une industrialisation du Québec basée sur l'invention Couture, et Jacques Germain confirme alors le choix administratif, le moteur roue avant tout.
On est tout petit d'Hydro comparativement à GM, Ford puis Chrysler. Puis, il faut faire comme de la guérilla technologique, se concentrer là où on est fort, puis aller très vite protéger la propriété.
Alors, Pierre, depuis cet été, donc, de nouveaux développements.
De nouveaux développements, M. Roderick Biron est le nouveau président du conseil d'administration de Technologie M4. Il est en fonction depuis quelques jours. On verra qu'est-ce que ça va donner. Il y a le comité de recherche et développement d'Hydro-Québec aussi qui a rendu son rapport au début du mois. Il débloque un autre 13 millions supplémentaires pour le programme.
Pour le développement du moteur roue, cependant.
Mais c'est ça, on s'en tient au moteur roue.
Il y a un article, donc, du respecté, quand même, magazine Québec Science, qui n'est pas tendre envers l'invention de M. Couture.
C'est la dernière pièce versée dans le dossier, si on veut. Il s'agit de l'article signé par Pedro Rodrigue. Ce mois-ci, l'article s'intitule « Hydro-Québec n'a pas encore inventé la roue ». On s'attaque dans cet article au moteur roue. On nous dit qu'il est trop lourd, qu'il y aurait des problèmes de refroidissement qui pourraient même faire fondre les roues, les moteurs. On parle de réalité virtuelle. Bref, le journaliste est très, très sévère à l'égard du projet. Il y a un petit encart au début de l'article qui est signé qui vient de la rédaction. Et on nous dit que le journaliste a reçu les brevets, mais on nous dit pas de qui. On nous dit qu'il n'a pas eu accès à M. Couture et qu'il n'a pas eu accès à l'administrateur Jacques Germain. J'ai rencontré Pedro Rodrigue. Vous allez voir que sa version est différente.
Pour le marché, bon, c'est une voiture de science-fiction, pratiquement, comme elle a été conçue. De ça, Hydro-Québec, à mon sens, essaie de tirer son épingle du jeu en commercialisant les éléments les plus commercialisables.
Et là, on parle du moteur roue.
Et on parle essentiellement du moteur roue.
Bon, mais vous le critiquez fortement, justement, ce moteur roue dans cet article.
Pour la même raison que tous les systèmes de l'automobile n'ont pas été testés, le moteur roue n'a pas été testé non plus. Le véhicule expérimental qui est équipé de deux de ces moteurs roues...
Au lieu de quatre,
et encore que les moteurs ne sont pas dans leur version définitive, ce véhicule-là n'a roulé qu'une dizaine de kilomètres.
Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il a roulé qu'une dizaine de kilomètres?
Ben, ce sont les directeurs du projet qui me l'ont dit.
Bon, Jacques Germain.
Jacques Germain, en particulier.
M. Bernstein, qui est un consultant.
C'est ça.
Donc, ces gens-là vous ont donné quand même une information de base pour réaliser cet article.
Oui. Bon, j'ai eu une information très abondante, mais malheureusement, il n'y a personne qui voulait qu'on le cite. Par contre, les renseignements que j'ai ont tous été vérifiés, soit avant, soit après, et restent tout à fait crédibles.
Vérifiés de quelle façon?
J'ai soumis ce que je fais de temps en temps pour un article scientifique. Je soumets le texte aux gens qui m'ont donné les entrevues, ne serait-ce que pour leur accorder la chance de rectifier des points techniques si jamais j'ai fait erreur. Et dans ce cas-là, il ne semblait pas y avoir d'erreur technique.
Bon, M. Germain donc a lu l'article et ça allait de soi.
Oui, exact.
Le 21 septembre dernier, Jacques Germain reçoit le projet d'article. Le titre se lit comme suit. Hydro-Québec réinvente la roue. Dans le numéro de novembre de Québec Science, l'article est chapeauté d'un nouveau titre. Hydro-Québec n'a pas encore réinventé la roue. Le 25 octobre, 6 chercheurs de l'équipe de Pierre Couture envoient une lettre à Rodrigue Biron, président du Conseil de technologie M4, et à Yvon Martineau, président de Hydro-Québec. Nous vous faisons ici lecture de quelques extraits de cette lettre que les Affaires et la Vie ont reçue.
Les choses ont changé lorsque Jacques Germain est devenu directeur général de technologie M4. L'invention que constitue le groupe de Traction Couture était finaliste en 1995 dans le prestigieux concours organisé annuellement par la revue Discovery. Nous nous sommes classés deuxième dans la catégorie automobile. Suite à cette sélection, Hydro-Québec a été approché afin d'installer un kiosque à Epcot Center. Or, Jacques Germain a refusé l'invitation sans même aviser l'équipe de cette nomination. Quelques semaines plus tard, le Musée des Beaux-Arts a approché Hydro-Québec pour participer à l'exposition Beauté mobile. À nouveau, refus de Jacques Germain et le groupe de Traction Couture ne fut pas présenté à cette exposition. Pourquoi Jacques Germain joue-t-il à l'autruche de cette façon alors que son mandat consiste à trouver des partenaires pour l'année prochaine?
Pedro Rodrigue, journaliste de Québec Science.
Tout d'abord, avez-vous réussi à parler à M. Couture, celui qui a
non,
inventé
tout ça? Non, je n'ai pas réussi à parler à M. Couture. On m'a fait comprendre qu'il ne voulait pas accorder d'entrevue parce qu'il était lié par contrat et soit qu'il ait été empêché de le faire, soit qu'il n'ait pas voulu par lui-même.
Donc, vous n'avez pas pu lui parler?
Non, j'ai parlé à la nouvelle direction, c'est-à-dire à Jacques Germain et aux gens de M4.
Bon. Comment vous interprétez cette collaboration de M. Germain, des administrateurs et cette difficulté à avoir accès aux chercheurs? Qu'est-ce que vous comprenez de ça?
Bon, ce que je comprends, c'est que tout le projet est ce qu'on, bon, ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, une démarche de patenteux. C'est-à-dire que M. Couture a eu une idée qui semble assez intéressante, mais l'a fait évoluer sans trop la communiquer à son équipe et sans vraiment vérifier. Bon, il savait où il allait, sauf qu'il n'a pas su faire la preuve de ça à ses collaborateurs et surtout aux gens qui le finançaient. Parce que le projet a quand même coûté 28 millions de dollars, ce qui fait beaucoup d'argent des contribuables. Et à un moment donné, Hydro-Québec a décidé de vouloir avoir des preuves qu'il y avait une rentabilité possible.
Voici un autre extrait de cette lettre composée par 6 chercheurs de l'équipe de Pierre Couture, envoyée au président de Hydro-Québec le 25 octobre dernier. Marc Filion de Radio-Canada nous fait ici lecture de la lettre.
Récemment, alors que M. Martineau, président d'Hydro-Québec, demandait de ne faire aucune intervention auprès des médias, nous apprenions que Jacques Germain, de même que Daniel Perlstein, était en contact avec Pedro Rodrigue, un journaliste de Québec Science. Ils ont produit un article péjoratif, méchant, fallacieux et pernicieux sur notre projet. Puisque l'article contient de nombreuses erreurs, l'information ne peut provenir de l'équipe de recherche, et comme l'article est excessivement méchant, péjoratif et mensonger, l'information ne peut provenir que de personnes qui cherchent à caler le projet. Nous nous sentons trahis par les responsables du projet et par Hydro-Québec. Nos réputations sont entachées. Depuis près de 3 mois, il n'y a aucun directeur de recherche et développement au projet moteur. Un tel article ne peut que nuire au conseil d'administration d'Hydro-Québec et de technologie M4 et pourrait même provoquer une contestation de nos brevets. En étant sali de la sorte, le projet risque de ne plus avoir la même valeur commerciale.
Est-ce que vous pourriez interpréter cette collaboration de l'administrateur comme une manœuvre pour tout simplement discréditer M. Couture? Avez-vous déjà envisagé ça?
Je ne crois pas qu'on veuille discréditer M. Couture. Enfin, peut-être, si c'est le cas, c'est leur problème.
Croyez-vous, M. Rodrigue, à l'auto-électrique? Croyez-vous qu'un jour, ce sera sur le marché?
L'automobile électrique, il fait plutôt partie de l'histoire de l'automobile plutôt que de son avenir. Au début du siècle, les automobiles électriques n'étaient pas rares sur les routes. Elles étaient même beaucoup plus présente que les autres véhicules. Sauf que le développement de la mise au, enfin, la mise au point des réseaux de distribution de pétrole ont sonné son glas. Bon, on parle de l'automobile électrique comme moyen de régler, de solutionner les problèmes de pollution. Ça serait effectivement un bon moyen si on arrivait à la rendre concurrentielle. Mais j'ai bien peur qu'on continue de rêver à ça très longtemps.
Alors, Pierre Duchesne, on va entendre les réactions maintenant, mais la lettre dont il y avait des extraits dans votre reportage lu par Marc Filion, elle a été signée. Qui sont les chercheurs en question qui l'ont signée, cette lettre?
Il y a un physicien, Daniel Dussault, et ensuite une série d'ingénieurs et chercheurs. On parle de Pierre Gingras, Serge Charaillon, Christian Pronovo, Bruno Franqueur et Ghislain Lambert, 6 chercheurs qui sont attachés à ce programme de Motero.
Merci beaucoup, Pierre Duchesne.
Merci.